I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hangs. Mama Hangs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion, aka le micromodal, qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur, et ce, en restant au sec. Tout ça veut dire que si, comme moi, tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé tète de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini. Le petit nouveau de la collection, c'est le body, qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Ici, on ne se passera plus de ces produits top quali, beaux et confortables. Alors merci Mama Hangs de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hangs.com et avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téterait pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons, et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode.
Allez, un petit dernier pour la route, c'est Karine qui nous propose son témoignage sur le manque de lait. Après Victoire et Anaïs, elle m'a envoyé un petit message pour me proposer son témoignage. Et là, je me suis dit, bingo, j'ai le temps cette semaine, je suis en vacances. Donc, je voulais monter in extremis pour qu'il sorte en même temps que celui d'Anaïs aujourd'hui. J'espère qu'il vous informera, comme c'est le but de chaque épisode. Et vous verrez que ça ressemble étrangement à ce qu'a connu Aubrey dans son témoignage dans l'épisode 60. Alors voilà, juste une expérience de plus. Je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse avec Karine.
Oui, bonjour Charlotte et toute la communauté du podcast. Moi, je voulais participer donc à ce sujet d'hypoplasie mammaire, puisque ça me concerne directement et parce que j'aurais aimé avoir ce genre de témoignage en 2019. Donc moi, c'est Karine, je suis maman de Océane qui a 4 ans et demi et Rebecca qui a 3 mois. Donc, mon aventure commence en 2019, à la naissance d'Océane. Je voulais allaiter. Je m'étais renseignée sur le sujet, mais pas non plus en profondeur, mais je m'étais renseignée sur le sujet. Et après, quand ma fille est née, ça a été un bouleversement, évidemment, mais dans le sens où je voulais vraiment allaiter. C'est-à-dire que avant je voulais, mais là je le voulais vraiment une fois qu'elle était là. Donc c'est ça. Donc là j'ai commencé à la mettre au sein, mais assez rapidement j'ai eu des rougeurs au mamelon qui ont été finalement après des crevasses. Donc, ça a déjà compliqué la chose. Il y avait pas de frein vraiment prononcé, du moins au début. Donc on rentre chez nous, fatiguée, parce qu'en plus c'était comme un bébé qui voulait jamais être déposé. Donc elle dormait tout le temps sur nous, que ça soit le jour ou la nuit. Et après, on arrive à avoir des cristaux dans les urines. Et donc là, on décide de donner du supplément. Ensuite, elle demande de plus en plus de suppléments. Donc, je la mets au sein tout le temps avant, mais c'est difficile et comme un combat. J'aime pas ce mot, mais vraiment, il y a des fois c'est ça, dans le sens où j'arrivais à la mettre au sein, puis après ça venait pas assez vite. J'ai pas eu de montée de lait non plus très 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 franche. Ensuite, j'ai tout essayé, le tire-lait double de l'hôpital, le dalle, le motilium, les suppléments naturels. Tout ça m'a permis de faire quand même un allaitement mixte. J'ai vu toutes les personnes que je rencontre. Donc, on est en 2019, hein, je parle. En tout cas, comment on dit? Je rappelle qu'on est en 2019. Donc là, j'ai le contact avec une marraine d'allaitement, puis une IBCLC, une clinique d'allaitement. Enfin, je vais chercher comme des ressources de laine. À chaque fois, on me dit, toutes les femmes sont capables d'allaiter. Coupe la formule, mets-la au sein, ton corps va s'ajuster, puis reviens nous voir quand t'es 100% allaité pour qu'on 100% allaitement, donc en allaitement exclusif, et puis on verra si le poids est bon. Sauf que moi j'avais besoin de beaucoup plus de support que ça, de beaucoup plus d'aide, de beaucoup plus d'accompagnement, et puis après on me dit évidemment donc de la mettre au sein toutes les 2 heures, plus de tirer au tire-lait, je dirais 6 à 8 fois par 24 heures, sachant qu'au tire-lait, j'ai jamais rien sorti. Enfin, on parle de quelques millilitres, hein, donc j'ai jamais rien sorti. Et la santé mentale, on en fait quoi dans tout ça? C'est bien ça le problème. Donc après, heureusement, j'avais du support de mon conjoint et de mes amis. Et je savais que c'était pas une bonne idée de couper le biberon comme ça, de façon drastique, vu les quantités que je lui donnais. Donc je ne l'ai pas fait, heureusement. Et après, donc j'ai pu faire de l'allaitement mixte pendant comme 3 mois. Et donc après ces 3 4 mois, l'allaitement c'est fini. Ça a été difficile. Même le fait d'être en mixte au lieu d'être exclusif a été un deuil pour moi, et j'insiste bien sur le mot deuil parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. On est un peu J'ai senti à ce moment-là que j'étais pas vraiment dans la famille des femmes qui allaitaient, ni dans la famille des femmes qui donnaient le biberon. Donc on est comme entre les deux. Et c'est vraiment difficile. Donc je garde des super beaux souvenirs de cet allaitement-là malgré tout. J'aurais aimé vraiment savoir avant que ça pouvait être difficile. Je pensais vraiment pas que ça pouvait être difficile à ce point-là. Donc voilà, le temps avance. Et je me trouve enceinte de Pour ma deuxième grossesse. Et donc là, forcément, l'allaitement revient sur la table, sur le sujet. Et ben, je suis traumatisée de ma première expérience, voilà. Donc, je m'en rends compte en étant enceinte et en pensant à l'allaitement qui arrive. Je tiens à dire aussi que mon conjoint a été pas autant, mais traumatisé à sa façon aussi, et lui se souvenait des tire-laits et moi aussi, parce qu'en fait là je me rends compte que même le bruit du tire-lait, je réagis vraiment beaucoup. Donc là je m'organise en fait, enfin je commence à en parler, donc entre autres à une amie, et qui me dirige vers des podcasts, entre autres Milk Shaker. Et là, je découvre un témoignage de Aubrey sur l'hypoplasie mammaire. Et là, je dis que ça correspond quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce que j'ai et ce que j'ai vécu. Et donc là, je fais le lien et je commence à chercher frénétiquement tout ce que je peux trouver sur le sujet. Et ça colle plutôt pas mal. Donc, même si c'est qu'une hypothèse, ça met déjà une explication à ce que j'ai vécu à mon premier allaitement, puisque la seule explication qu'on me donnait, c'était en gros que je n'avais pas assez stimulé mes seins et ma production, et que j'avais donné la formule trop tôt. Et donc que du coup, en gros, ben c'est pour ça que j'avais pas pu allaiter. Donc là, je vois une autre ouverture, enfin dans le sens une autre possibilité. C'est pas que ça me réjouit, mais c'est que ça met quand même des mots sur une possibilité qui était assez grande à mon avis. Et d'autant que là, deuxième grossesse, ça fait comme la première, c'est-à-dire que ma poitrine ne grossit pas plus que ça. Donc là, je sens bien qu'on est reparti pour quelque chose qui sera pas forcément facile. Donc après, il y a beaucoup d'interrogations parce qu'au final, on n'en sait pas beaucoup non plus sur l'hypoplasie mammaire, enfin du coup moins pas encore. Donc bref, donc là je contacte une marraine d'allaitement en étant enceinte déjà. J'étais quand même assez tôt dans ma grossesse, je devais être à 4 mois, quelque chose comme ça. Et puis je vais voir une IBCLC en étant enceinte aussi. On discute beaucoup. Les deux, ma marraine d'allaitement et l'IBCLC me réconfortent et me ramènent à une vision de l'allaitement positive, n'est-ce pas? Et aussi réaliste en fonction de ce que je.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires, grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu, justement, il est tout doux. En coton bio, certifié GOTS, le tout est dessiné à Biarritz et fabriqué au Portugal. Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kilos de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
Je vais pouvoir donner. Donc, l'IBCLC pose le diagnostic d'hypoplasie mammaire. Donc, je suis soulagée quelque part de l'entendre, mais j'ai envie d'y croire aussi. Et donc, avec l'IBCLC et ma marraine d'allaitement, je me prépare à un allaitement mixte. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Donc, mais je me dis que cette fois-ci, je suis mieux préparée, que tout le monde me dit qu'un deuxième, on a plus de lait et j'ai plus de ressources. Donc, on se lance. Alors, en plus, cette fois-ci, c'était une césarienne, enfin, ma deuxième pour Rebecca. Une césarienne planifiée au moins, mais c'était comme une nouveauté puisque ma première c'était vaginale. Donc une césarienne planifiée, les équipes ont été super, j'ai eu du colostrum qu'on a pu donner à la seringue, tout ça. Mais donc là on est face comme un autre problème selon moi, c'est-à-dire que le bébé est à peine sorti de l'utérus, qu'il est pesé et plein de liquide et donc forcément on va avoir une grosse perte de poids, on est à 7,5 en 24 heures puis après à 9,5 en 48 heures et on va se rendre à 11,5 de perte de poids, donc ça c'était en 4 jours. Rebecca sort, j'ai du colostrum. J'ai des infirmières qui sont très optimistes, d'autres qui me mettent une étiquette de hypoplasie mammaire. Alors autant en 2019, je n'en ai absolument pas entendu parler, autant cette fois-ci en 2023 j'avais l'étiquette de hypoplasie mammaire, c'est-à-dire que c'est comme si ça se passait d'infirmière en infirmière, et donc on me disait forcément que je pourrais pas allaiter exclusivement. C'était d'emblée, dans le sens où on me disait, vous savez que vous pourrez pas allaiter exclusivement, ce qui est pas totalement vrai, en tout cas dans le sens où finalement elles auront eu raison, mais je veux dire que certaines ont une hypoplasie mammaire et allaitent quand même. Donc la prise au sein de Rebecca est excellente, mais vraiment excellente, donc il n'y a aucun problème de son côté. Et là, je me dis que il n'y a plus qu'à booster mon corps et c'est à moi de jouer. Donc, j'étais déjà avec les tisanes d'allaitement à l'hôpital, déjà avec le fénugrec à l'hôpital, j'avais déjà les dalles, j'avais déjà les formules, j'avais les seringues pour donner, enfin, tout. Donc là, on a une perte de poids quand même assez importante, mais il nous laisse sortir, puis on a un suivi de poids quelques jours après. Mais là, de nouveau, on repart avec les cristaux dans les urines, toujours du méconium, ça a été un petit peu long avant que les selles arrivent, les vraies selles de bébé, je parle, puis le poids descendait et ne se stabilisait pas vraiment, donc on a dû donner de nouveau de la formule. Puis ensuite, j'ai quand même eu une montée laiteuse cette fois-ci à jour 4, mais ça a été très difficile parce que la prise au sein était vraiment plus difficile et donc du coup, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre puisqu'elle avait déjà perdu du poids. Donc voilà, et puis donc là on me parlait de mettre le biberon, de donner le biberon, mais on a tenu bon, puis on a donné le dalle. Et puis après, bah, il a fallu introduire les biberons puisque les quantités étaient vraiment importantes. Donc, avec le dalle, c'était vraiment difficile. Et donc, on repart dans un allaitement mixte. Ça a été dur. Entre la chute des hormones, plus un deuxième échec. Et en conclusion, je dirais que l'allaitement est une aventure fantastique, mais qu'elle peut être également difficile. Et je trouve que c'est important d'avoir de plus en plus de témoignages comme le mien, et que ce témoignage-là se transmette au plus de personnes possible. L'allaitement, c'est naturel, oui, mais ça peut être toute une autre histoire et beaucoup plus, entre guillemets, technique à partir du moment où on doit introduire des médicaments, où on doit introduire des tire-laits. C'est une autre vision de l'allaitement auquel on n'est pas nécessairement préparé, je trouve. Et il est important aussi de savoir que ça existe, en fait. Il est également très, très important dans un allaitement d'avoir du monde autour de soi. Donc, un conjoint impliqué, des amis qui peuvent écouter, aider. Et aussi une marraine d'allaitement qui est en accord avec le projet d'allaitement. Exemple, moi, c'était très important que ma marraine d'allaitement soit OK avec un possible allaitement mixte, autrement ça n'avait aucun sens. Et de savoir que les ressources existent pour des conseillères en lactation des IBCLC. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. J'ai ma reine d'allaitement, amie et mon conjoint pour mon deuxième allaitement. Chaque goutte compte, je me le suis souvent rappelé. Chaque goutte compte et c'est important de mettre l'emphase vraiment sur le fait qu'on donne ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on a.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe.